1er mai 1901, le 1er mai sera célébré à Pointe-à-Pitre, mais aussi à Sainte-Rose. Alors, venons-en aux grèves de 1910. Alors, j'en parle au pluriel car il y a eu une succession de grèves, mais en quelque sorte très régionalisées. Il n'y a pas un mot d'ordre de grève qui est lancé, qui s'est propagé à travers la Guadeloupe, mais il y a une succession de grèves, les unes servant d'exemple aux autres. Le point de départ, ce sont des grèves sur les habitations dépendant de l'usine d'Armoussier, dans la région des Abîmes, exactement le 15 février, peut-être le 14, d'après les rapports, mais enfin, on peut vraiment dire que c'est le 15 février, alors ces habitations, Belle Espérance, La Redoute, Broivinière, Pointe d'Or, Belle Blême. Enfin, ce sont aujourd'hui des lieux qui sont occupés par des habitations, par des bâtiments, mais enfin, ce sont les habitations de la région des Abîmes. Alors, revendication des grévistes, d'après des rapports, puisque moi j'ai travaillé sur des rapports qui étaient fournis, c'est la suppression du travail à la tâche, c'est-à-dire la quantité de travail, quoi, et relèvement des salaires, alors 2 francs, francs de l'époque, hein, je précise tout de suite, 2 francs pour les hommes, 1 franc 50 pour les femmes, 1 franc 25 pour les enfants. Pour les enfants parce que le travail de la canne incluait aussi femmes et enfants. Alors, il y a plusieurs centaines de grévistes. Il y a des négociations, mais qui échouent le 18 février. Et par ailleurs, il y a une extension du mouvement de grève en Grande-Terre. Alors, sur des habitations dépendant d'autres usines, il y a des grévistes qui se dirigent vers les usines de Blanchette, de Courcelles, de Gentilly, mais aussi dans le nord de la Grande-Terre, ainsi vers l'usine de Beauport, mais il semble que dans le nord de la Grande-Terre, ce soit plutôt les revendications des petits planteurs qui réclament un relèvement du prix de la canne, de la tonne de canne qu'ils livrent aux usines. La grève, nous avons dit, a débuté donc le 15 février, mais c'est la journée du 22 février qui sera importante. Elle est marquée par 2 événements qui illustrent un peu la diversité des rapports de force. À Pointe-à-Pitre, il y a une marche de grévistes venus des habitations des Abîmes. Ils descendent sur Pointe-à-Pitre, ils sont au nombre de plusieurs centaines, ils sont partis des Abîmes de la région de Mornalo et se dirigent vers l'usine d'Armoussier. Alors les responsables de l'usine, messieurs Laurent et Monroux, se réfugient d'abord au consulat d'Italie. Mais tout de même, des négociations ont finalement lieu, non pas d'ailleurs à Darboussier, devant l'usine Darboussier, où stationnent un moment les grévistes, mais à l'hôtel du gouvernement. Alors l'hôtel du gouvernement, ce n'est pas l'actuelle sous-préfecture, c'est l'ancien hôtel des postes près de la rue Gambetta, n'est-ce pas ? Donc les négociations ont lieu à l'hôtel du gouvernement. Et il y a donc des délégués des grévistes, il y a le gouverneur, il y a évidemment finalement les représentants de l'usine d'Armoussier et plusieurs centaines de grévistes stationnent aux abords de l'hôtel. Alors les négociations ont été très longues, suivant certains rapports de 11h30 à 15h30, mais jusqu'à 17h d'après un rapport du gouverneur. Et peut-être sous l'influence du gouverneur, en tout cas on aboutit à un accord sur les salaires. Alors 2 francs pour les hommes, 1 franc pour les femmes, 1 franc 50 pardon pour les femmes et 1 franc 25 pour les enfants, mais pour les milieux patronaux, ils considèrent que c'est une augmentation qu'ils évaluent à 86%, ce qui évidemment donne une idée de la faiblesse du salaire. Et surtout alors, c'est un salaire à la journée et non plus à la tâche. Alors la journée est fixée de 7h du matin à 16h30, et délégué d'Armoussier, enfin représentant de l'usine d'Armoussier, Monroux, déclare on dépasse ici ce qui réclame en France la journée de 8 heures. Parce qu'on n'est pas encore à la journée de 8 heures en France. Alors, il y a quand même des limites à cet accord. D'abord, il ne concerne que les ouvriers, que ceux qui travaillent sur les centres agricoles des Abîmes et de Mornalo, qui relèvent sur les centres agricoles, qui relèvent sous les exploitations. Anciennes habitations, mais qui dépendent maintenant de la SIAPA, qui relèvent donc de la SIAPA. Donc c'est un accord très, très limité géographiquement. D'autre part, il ne concerne que les coupeurs de canne, enfin, qui travaillent dans la coupe de la canne, d'où l'appel du journal Le Libéral, animé par Achille Rouani-Broileff, nous en reparlerons, pour soutenir d'autres revendications. Appelle les coupeurs de canne à soutenir les camarades de l'atelier, c'est-à-dire les ouvriers d'usine, et ceux aussi qui fournissent du bois pour les fourneaux. Donc voilà ce qui marque pour ce qui est de Pointe-à-Pitre la journée du 22 février. Alors, il y aura d'ailleurs des accords, un accord à peu près identique aussi à Blanchette, où il y avait 1800 grévistes qui auraient plus ou moins séquestré le directeur Saint-Alard. Bon, alors voyons les événements de Sainte-Marthe. Alors, rappelons que Sainte-Marthe est la propriété des frères Pauvert, dont un des frères est maire et conseiller général. Et ils sont présentés par le gouverneur, c'est un rapport du gouverneur, comme, je cite, « nettement décidés à défendre leur exploitation ». Fin de citation. Autre citation, « ils passent pour être d'une énergie qui va parfois jusqu'à la violence ». Donc, ce sont des patrons de choc, si je puis dire. Alors, en fin d'après-midi, des grévistes se présentent devant l'usine. Alors, il semble qu'il s'agisse, on le sait par l'identification des morts, n'est-ce pas, qu'il s'agisse essentiellement des blessés, de travailleurs originaires de hameaux situés au voisinage de Sainte-Anne et de Saint-François, n'est-ce pas, donc la région. Relevant donc de hameaux relevant de cette région du sud-est de la Grande-Terre. Alors, sur les incidents de Sainte-Marthe qui vont conduire, enfin, mener la mort de trois grévistes et de plusieurs blessés, nous avons trois témoignages, évidemment, émanant de côté répressif, mais qui ne concordent pas tout à fait. Alors, j'ai essayé d'analyser de faire un tableau de ces trois témoignages. Il y a le rapport d'un gendarme qui s'appelait Olmicia, le rapport du commissaire de police et le rapport de Dubos, qui était lui aussi usinier, mais qui paradoxalement a l'air de prendre des réserves par rapport aux autres, n'est-ce pas? Alors, par exemple, question, j'ai fait un tableau, d'après les rapports, sont-ils armés? Alors, rapport Olmicia, gourdin, sabre, revolver. Rapport du commissaire de police, gourdin, sabre, revolver. Témoignage de Dubos, pas de mention. Bon. Alors, comportement des grévistes. Rapport Olmicia, agressivité, veulent pénétrer de force. Rapport du commissaire de police, agressivité. Rapport de Dubos, escalade les portes. C'est pas tout à fait de l'agressivité. Comportement de M. Pauvert. Rapport Olmicia, conciliant et podéré. Rapport du commissaire de police, conciliant et podéré. C'est des citations, hein? Bon. Par contre, rapport Dubos, pas d'indication sur le comportement de M. Pauvert. Bon. Vous voyez déjà le silence. Sommation, c'est là où c'était intéressant, particulièrement intéressant. Rapport, y a-t-il eu sommation? Rapport Olmicia, non. Rapport commissaire de police, non. Témoignage du boss, non. Donc, il n'y a pas eu de sommation. Bon. Alors, y a-t-il eu de victimes après le premier coup de feu? Rapport Olmicia, pas de mention. Olmicia tire en l'air. Rapport du commissaire de police, même chose. Rapport de Dubos, trois grévistes tombent. Vous voyez les contradictions, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez, vous avez deux rapports qui tendent à mettre l'accent sur l'agressivité des grévistes, le cas où, disons, le fait que produit l'idée à quelque sorte de légitime défense, soit, et le rapport du Dubos qui, au contraire, marque un certain nombre de réserves par rapport aux affirmations des deux autres. Et d'autant plus remarquable que Dubos est lui aussi un notable. N'est-ce pas? Bon, donc voilà les contradictions de ces trois témoignages. Donc, mais ce qu'on peut retenir, c'est que on a tiré sur les grévistes, et trois grévistes ont donc été tués, et plusieurs autres ont été blessés, six blessés. Alors après, il y a eu des rumeurs que des grévistes avaient été jetés dans des puits, ça, je ne peux pas le confirmer ou l'infirmer, n'est-ce pas? Bon, mais enfin, c'était un peu une rumeur qui s'est répandue dans la région de Saint-François. Donc voilà ces événements dramatiques de Sainte-Marthe, qui sont déroulés à Sainte-Marthe. Alors comment va évoluer la grève après cela? Bien, en fait, la grève va se continuer dans le nord de la Guadeloupe proprement dite, sur des habitations relevant de l'usine d'Arbousier, mais qui n'avaient pas été inclus dans l'accord du 22 février, à l'usine Bottemer, mais aussi et surtout, il y a la grève des ouvriers de Bottemer. Alors, qui arrive à un accord qui paraît concerner aussi bien les ouvriers agricoles que les ouvriers d'usine. Mais l'effervescence demeure. Mentionnons notamment l'extension de la grève à Marie-Galante. Alors, ça concernerait surtout, d'après le Nouvelliste, les travailleurs de l'usine de Grandance, de Marie-Galante, et l'extension de la grève dans la région de Capesterre-Belleau, je précise, pour ne pas confondre avec Capesterre de Marie-Galante, qui a sur son territoire deux usines, les mineurs et le marquisat. Là encore, il s'agit d'obtenir plus ou moins une extension, une application des accords conclus en Grande-Terre, conclus avec Darboussy. Alors, c'est un mouvement qui est marqué notamment par une marche peut-être d'un millier de personnes vers l'usine des mineurs, qui se trouve là de la rivière du Grand Carbet. Mais il semble que la reprise du travail soit à peu près réalisée au début de mars, tout au moins d'après les informations qui ont été données. Restait la question des petits planteurs. Alors, la question de la tonne de canne que livrent les petits planteurs aux usines. Alors, il y avait un litige, il y a une réunion de concertation entre délégués des planteurs et délégués de ce qu'on appelle le syndicat des ouvriers, des usiniers, syndicat des usiniers, le 5 mars. Alors, cette réunion réunit 32 délégués de petits planteurs. Ce sont des délégués venus des communes de la Grande Terre, du nord de la Guadeloupe proprement dite, de la région de Capesterre, mais il n'y a pas de délégués de petits planteurs de la côte sous le vent, qui était à vrai dire peu canière, et de Marie-Galante. Et du côté usinier, alors il y a les Dubos, président du syndicat des usiniers, celui dont j'ai cité le propos, et il y a les représentants de la CIAPAP, d'Arbousier, et qui représente donc l'usine d'Arbousier, Laurent et Moreau, et Saint-Alary, qui représente l'usine Blanchet. Et le résultat de cette concertation, c'est un accord conclu le 5 mars, alors qui prévoit que le prix de la tonne de canne sera de 16 francs de l'époque, hein, je précise, mais pour février seulement, car le prix le cours du sucre variait mensuellement. Alors, 16 francs 60, c'est un relèvement par rapport au prix qui était auparavant de 14 francs 20 ou de 15 francs. Donc, il y a un relèvement. Et puis, surtout, alors, il y a la question du contrôle des balances. Un droit de contrôle des balances pour la pesée de la canne est reconnu aux représentants des petits planteurs, car évidemment, il pouvait y avoir quelques manipulations dans la pesée des tonnes de canne. Donc, il y a un droit de contrôle. Alors, on ne saurait négliger dans l'étude de ces mouvements les pressions qui ont été exercées auprès du pouvoir central métropolitain par les porte-parole du patronat qui se trouvait en France. Alors, j'ai relevé justement un certain nombre de ces éléments. Permettez justement, enfin, de, par exemple, j'espère que je l'ai. Enfin, en tout cas, j'ai relevé que. Oui. Oui, voilà. J'ai relevé que entre le 19 février et le 23 mars, il y a eu environ 14 interventions écrites. Enfin, pas des interventions orales. 14 interventions écrites auprès du ministre des colonies de l'époque ou de, enfin, du gouvernement. Alors, je vous dis quelques-unes, quoi. 22 février, lettre du président du conseil d'administration de la CIAPAP au ministre des colonies. Lettre du crédit foncier colonial au ministre des colonies. 23 février, lettre du président du conseil d'administration de la CIAPAP au ministre des colonies. 24 février, télégramme du président de la chambre de commerce de Marseille au ministre des colonies. Ben oui, les sucreries marseillaises, n'est-ce pas? Donc, il y a cette intervention. 3 mars, lettre du directeur du crédit foncier colonial au ministre des colonies. Lettre du président du conseil d'administration de la société industrielle et agricole de la Pointe-à-Pitre. CIAPAP. 19 mars, lettre du directeur du crédit foncier colonial au ministre des colonies. 21 mars, lettre de Paul Deschanel, par ailleurs un homme politique très célèbre, président de la commission des affaires extérieures et coloniales. 23 mars, lettre du directeur du crédit foncier colonial au ministre des colonies. Donc vous voyez, et je parle des lettres. Il y a aussi les interventions qui n'ont pas laissé de traces, n'est-ce pas? Mais donc environ 14 interventions auprès du gouvernement pour évidemment l'alerter, réclamer davantage de répression ou de fermeté, enfin, ou se plaindre d'être menacé de ruine, enfin, vous voyez, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc voilà donc les différentes interventions de cela. Il y a aussi alors un document que je vous donnerai lecture dans un moment, du syndicat des fabricants de sucre de la Guadeloupe, enfin qu'on peut résumer, je l'ai cité dans un recueil de textes, n'est-ce pas? C'est une lettre du 25 mars du syndicat des fabricants de sucre de la Guadeloupe au gouverneur. Et alors il y a deux thèmes qui apparaissent d'abord, premièrement, la satisfaction donnée constitue la ruine de l'agriculture, n'est-ce pas? Il y a là en effet une question de vie ou de mort pour notre agriculture qui ne pourrait continuer à travailler à ses prix sans aboutir à la ruine. Bon, donc si vous voulez, les concessions qui ont été faites entraîneraient la ruine de l'agriculture, et puis ça c'est pour le présent. Et puis, pour l'avenir, alors là, il y a un passage qui est très significatif. Pour l'avenir, le syndicat m'a également chargé de vous prier de solliciter du département, c'est-à-dire le département de ministère des colonies, hein, c'est pas département au sens où nous l'entendons, le maintien dans la colonie d'une force permanente de deux compagnies d'infanterie coloniale, dont l'une serait casernée à la Bastère ou au Camp Jacob et l'autre à la Pointe-à-Pitre. Cette force et celle de gendarmerie paraîtraient suffisantes en temps ordinaire, sauf à les compléter en cas d'émeute générale, en réclamant, comme vous l'avez fait le mois dernier, l'emploi de croiseurs avec une compagnie de débarquement. Voilà. Donc, vous voyez, la situation présentée comme une situation pouvant devenir quasi insurrectionnelle, et pour laquelle, d'ailleurs, on réclame le renforcement des forces dites de l'ordre, comme ça avait été d'ailleurs le cas en Martinique. Également. C'est pas, ben, ils font référence à ce qui s'est passé en Martinique. Donc voilà un peu pour vous donner la teneur de ces différentes interventions. Donc d'une part, ruine de l'économie sucrière, si on continue sur cette lancée, n'est-ce pas, de concession, et d'autre part, renforcement de l'appareil répressif. Alors, mentionnons le prolongement politique de ces grèves, parce que lesquels ont lieu à un moment où il doit y avoir des élections en avril 1910. Et il y a deux courants qui s'affrontent. Un courant représenté par Légitimus. Alors Légitimus a été le grand homme de la Guadeloupe, socialiste, mais justement Légitimus et bon, son entourage, depuis le début de la crise sucrière, enfin depuis la crise sucrière, pratiquent ce qu'ils appellent une politique d'entente capital-travail. C'est-à-dire qu'ils estiment que pour atténuer les effets de la crise, il vaut mieux que le travail, qu'on s'entende avec le patronat. Bon. Et puis alors il y a l'adversaire de Légitimus, qui n'est pas socialiste, qu'on peut républicain radical si l'on veut, Achille René-Brouilleuf, et justement le Achille René-Brouilleuf, son journal Le Libéral, ont violemment attaqué pendant les élections, pendant la grève, Légitimus, accusé de temporisation, de pratiquer une politique en quelque sorte de collaboration de classe, quoi. Donc, il y a eu cet affrontement entre Légitimus qui paraît vouloir pratiquer une politique de conciliation, peut-être présentée de façon exagérée, et Achille René-Brouilleuf et son équipe du libéral qui attaque violemment Légitimus. Alors, les élections législatives ont bien lieu le 24 avril. Et alors, dans la circonscription de la Grande Terre du nord de la Guadeloupe, proprement dite, où s'affrontaient justement Brouilleuf et Légitimus, les premiers résultats donnent à Brouilleuf une avance de 2000 voix, mais opportunément des résultats ultérieurs, provenant notamment de Lens Bertrand, de certains hameaux du Gosier, du Lamentais, vont donner la majorité à Légitimus. Alors, sans faire de jeu de mots, on peut s'interroger sur la légitimité de Légitimus à la suite de ces derniers résultats. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette question. Je vous remercie.